Combini.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Fanfiction, le podcast de Combini et Prime Video. Je suis Adrien Méniel. Qui est cette personne en face de moi ?
Moi ?
Oui.
Ah, vous parlez de moi ?
Ah oui, bien sûr.
Ah pardon, excusez-moi. Moi, je suis Florent Bernard.
D'accord, bah enchanté.
Enchanté, ravi.
Je rigole, on se connaît. On fait le
flotcast
ensemble. Nous sommes dans Fanfiction et quel meilleur moyen d'expliquer le concept que de rappeler ce que nous avons fait dans la saison 1 de Fanfiction, puisque c'était déjà nous qui avions été mis à l'œuvre. Oh là là, attention. Le concept de ce podcast, c'est qu'on choisit une œuvre parmi le catalogue Prime Video et on en fait une fanfiction, comme son nom l'indique, c'est-à-dire une création fictionnée de notre cru, mais en utilisant l'univers de l'œuvre en question. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on avait fait pour la saison 1, Florent ? Je te laisse, vas-y, je t'en supplie.
Ça s'était découpé en 3 épisodes, et d'ailleurs ça va se passer aussi comme ça pour cette saison-là.
C'est bien pour ça qu'on le dit, pour que les gens soient aient leur repère.
C'était d'abord un premier épisode où nous discutions de la série en question, à l'époque The Boys. Donc on dit pourquoi on a aimé cette série, qu'est-ce que ça nous inspire.
C'est l'épisode 1.
Ça c'est l'épisode 1. Épisode 2, on brainstorm, parce que c'est vrai qu'Adrien comme moi on écrit, donc on se disait, ok, à quoi ressemblerait un épisode d'une série par notre dans notre cru, dans notre ADN, quelles idées en sortiraient, qu'est-ce qui nous ferait rire, qu'est-ce qui nous ferait vibrer
si on écrivait un épisode de The Boys, à quoi ça pourrait ressembler.
Exactement.
Donc on a dans l'épisode 2, on réfléchit, on échange des idées en ping-pong. Alors évidemment pas de raquettes ici,
oh là là, surtout pas, imaginer
un brainstorm. Et enfin
l'épisode 3 où nous avons enregistré tout simplement l'épisode que nous avons écrit et avec un guest de renom puisqu'il s'agissait de
Jean-Pierre Michael, la voix française de Butcher dans la série The Boys.
Alors vous pouvez réécouter ça, hein, si vous l'avez pas écouté, là, si vous tombez dessus, il y a la saison 1, ces 3 épisodes, régalez-vous.
Évidemment, mais si vous êtes déjà en train d'écouter là, vous pouvez continuer, pouvez écouter la saison 2 indépendamment de la saison 1.
Tout à fait.
Mais évidemment, allez écouter la première après. Bah, attendez,
plaisir,
vous rigolez ou quoi?
Parce que là, c'est la saison 2.
Ne regardez pas comme ça. Enfin, on est entre amis. Hein.
Parce que là, c'est la saison 2. Et la saison 2, on a choisi, alors, non pas une série fiction, un film fiction.
Non.
Un simple documentaire. Je parle
simple.
Bien sûr, basique peut-être même.
Oh,
je parle de Montre jamais ça à personne, de Clément Cotentin. Il a envie de dégueuler tellement il adore mon intro.
Mon crâne est en mille morceaux tellement je ne l'ai pas vu venir.
Montre jamais ça à personne, la série documentaire de Clément Cotentin sur Aurel San, la saison 1 sur sa carrière, la saison 2 sur la création de l'album Civilisation.
Enfin, sa carrière, sa slash sa vie.
Oui, sa vie.
Ça commence avant même qu'on puisse parler de carrière.
On va en parler, le petit Aurel, hein, comme on l'appelle. On va en parler tout au long de l'épisode. Ça s'appelle Fanfiction et on est ravis d'être avec vous. Fanfiction ! Alors, pourquoi d'ailleurs avoir choisi ce documentaire ? C'est un documentaire qu'on a tous les deux. Moi, je binge-watch pas beaucoup.
C'est vrai que c'est.
Et là, j'ai binge-watché. D'ailleurs, j'arrive même pas à le lire.
Ouais, tellement t'as pas l'habitude d'en parler.
Mais. Là, j'avoue, j'ai binge-watché. Je vais même vous dire mieux. Vraie anecdote. Alors là, mes cartes sur table. Hein. D'ailleurs, regarde sur la table. Il y a quoi là ?
Excuse-moi, parce que je vois pas où t'es, parce que t'es parfaitement transparent, en fait. Tu peux me souffler au visage pour que je vois où t'es.
Tu peux regarder sur la table. Là, il y a un petit valet de trèfle. J'ai du carte sur table.
Okay.
Voilà. J'ai maté la série et j'ai tellement aimé que j'ai voulu la montrer tout de suite à ma meuf. Et donc, je l'ai maté deux fois d'affilée. Je l'ai double binge. C'est un terme que j'ai déposé.
Tu es donc littéralement un fan.
Ah ben moi je suis fan.
Comme le fan de Fan Fiction.
Et moi je suis fan d'Aurel San depuis ma plus tendre
enfance. On peut pas être plus dans le thème.
Ah ben là honnêtement, depuis ma plus tendre adolescence, lorsque je prenais le bus à Autun, j'écoutais la chanson No Life entre autres, la chanson Perdu d'avance. C'est des choses que j'écoutais, l'album d'Aurel San.
Oui, parce que du coup on va, parce que là on est dans le premier épisode. Ça y est, on est dedans là. Vous êtes même pas rendu compte. Attendez, mais c'est l'intro. Mais non, ça y est, c'est parti.
Vous êtes même pas mouillé la nuque.
Oh, on est des pros du podcast. Hein. Non, en fait, on va parler un peu de ce que c'est ce programme, cette œuvre, et ce que ça évoque pour nous et tout, et donner les raisons pour lesquelles on a choisi cette série documentaire. Donc toi, tu dis que t'écoutais ça quand t'étais ado, donc c'est un truc t'as grandi avec, quoi,
ouais.
Aurel San.
Oui, il y a un truc. En fait, c'est ce que les gens disent beaucoup de la musique d'Aurel San, c'est que c'est alors, d'une génération d'une part, mais même d'un endroit de la France. Lui, il parle de Caen, mais c'est un peu toutes les régions un peu paumées de France, quoi.
Quand t'as dit bus à Autun, je me suis dit oui, bien sûr. Évidemment que ça lui parlait. Il a pris le bus à Autun. Vous qui écoutez, vous ne savez même pas où c'est.
Bah non, bien sûr. Même les gens de la région ne savent pas où c'est. Donc oui, c'est une musique que j'écoutais beaucoup. Et quand le documentaire est sorti, alors en plus, moi, j'ai eu la chance de le... Enfin, toi aussi, d'ailleurs, on l'a croisé plusieurs fois. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Ce documentaire, bah, le vrai truc, le vrai plus qui fait que moi, je le trouve exceptionnel, c'est que c'est réalisé par son frère.
Bah, c'est ça. Et qu'un frère qui avait une vision depuis leur enfance, quasiment leur adolescence, préadolescence, et qui a filmé leur quotidien, à en être relou parfois, comme on le voit dans le documentaire, où vraiment il se fait insulter par ses potes parce qu'il place des caméscopes dans les pièces alors qu'ils sont en train de rien faire du tout. Mais c'est trop bien parce que je trouve que ça raconte aussi bien l'histoire d'Orelsan que de Clément en creux, quoi. Parce que le côté... en fait, c'est... comment dire, l'aspect créatif d'Orelsan est traité dans le documentaire, mais il y a aussi le côté créatif de Clément. Et la création, ça passe parfois par des gens qui comprennent pas ce que tu fais, quoi. Et des gens qui disent, mais pourquoi tu fous un caméscope? Ça sert à quoi? On est en train de rien faire. Bah oui, sur le moment, on comprend pas ce que tu fais. Mais des années plus tard, ben, un banger aussi. comme notre premier épisode. Et c'est vachement intéressant. Et en plus, ils sont frères, donc il y a un lien direct entre les deux. C'est
même beau d'ailleurs ce truc voir un frère. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est que, alors on le sait, Orelsan, il a toute une équipe avec lui. Il y a Ablai, il y a Skred. C'est-à-dire que dans le documentaire, on voit même les moments où Skred dit, ouh, mais là, ça se trouve, on n'y arrivera jamais, quoi. Là, bon, tu filmes, mais il y a toujours Clément qui est là et qui lui documente. Et c'est vrai qu'il y a une dimension parallèle terrible à ce documentaire, à savoir Orelsan ne perce jamais, mais le fait qu'il y croit et tout, et que du coup il ne cache rien, c'est ça que j'ai
ce
beaucoup.
Ce qui sera peut-être une peut piste à explorer.
Ça pourrait être intéressant dans le deuxième épisode.
Attention, on brûle pas les étapes. Restez pour l'épisode 2, où là on va un petit peu creuser les pistes. Mais d'abord,
j'ai envie de fictionner tout de suite. Je suis un fan, mais je fictionne. Non, mais c'est fanfiction. C'est le podcast de Combiné.vidéo. Il y a ce truc vachement intéressant de mec qui croit en son frère. Qui croit plus en son frère que son frère a l'air de croire en lui-même. Et ce qui est super, c'est que du coup, on peut voir toutes les loses aussi. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le documentaire. Parce qu'en plus, il prend pas le prisme de donner des grandes leçons de « Hey, tu vois, il faut s'accrocher. »
Si t'y crois, ça y arrivera.
Ça y arrivera. Pas vraiment lui, c'est juste, il a rencontré des bonnes personnes.
Oui, c'est ça.
Beaucoup fait entourer.
C'est un peu, si tes potes y croient, tu y arriveras peut-être.
Ouais, c'est ça.
Mais je trouve que c'est un message plus sain que ce qu'on entend un peu... dans un reel sur deux, une vidéo sur deux.
Avec du piano derrière.
Ouais.
Bien sûr.
Alors, si t'abandonnes pas, tu vas forcément y arriver. Non, pas forcément. Mais bon, là, en l'occurrence, il a totalement brillamment réussi.
Il a brillamment réussi.
Mais ça se fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est pas, ça prend le contre-pied du mythe du self-made man.
Oui, complètement.
Parce que non, pas du tout, en fait. Il a vraiment, ce que j'ai trouvé génial dans ce documentaire, c'est que tu vois à quel point, si tu retires une personne de l'équation, c'est le château de cartes s'effondre, en fait, quoi. Il y a vraiment chacun est là et apporte son truc c'est comme tu dis, c'est beau, quoi.
Ça remet même un peu la chance au centre de du succès d'un artiste, parce que c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui est totalement vrai. C'est un miracle de faire les métiers qu'on fait, à savoir le rap. Hein, je parle de nous deux en rap.
Oui. Alors, je dis pas mon blaze parce que je porte une cagoule et je veux pas qu'on sache pas vraiment.
Quand je dis nous, je parle de nous les rappeurs, Orelsan, Adrien et moi. Non, mais c'est voilà, de vivre de sa passion créative, de faire un métier artistique, c'est une chance totale. Et effectivement, le documentaire montre que c'est plein de gens qui se sont rencontrés à un bon moment. À un moment, Skred, il fait la chanson de Diams. Enfin, il y a toujours des petits trucs qui arrivent et qui, du coup, mettent une pierre sur l'édifice et machin. Et au bout d'un moment, ça construit cette carrière qui est celle d'Orelsan.
Parce qu'il y a le passage où il fait un concours de battle.
Ouais, bien sûr.
Qui se passe très mal.
Face à Booba.
Enfin, face à Booba. Booba, il est juge.
Oui.
Il n'est pas face à Booba.
Non, pas en clash.
Ouais,
non, parmi les juges.
Non, mais en vrai, c'est intéressant aussi parce que j'aurais pu être le moment où tout s'arrête, quoi, tu vois, si justement, parce que il est assez affecté par ça, il y a ses potes qui sont là pour le convaincre de continuer et tout. Et en fait, tu vois, en regardant le truc, tu vois tous les embranchements que ça aurait pu prendre. Et comme tu dis, ça fait que mettre en lumière, la chance que, il a pris les bons embranchements à chaque fois, en tout cas, il a fini par raccrocher les wagons à chaque fois pour devenir qui il est, pour devenir qui ils sont, en vrai, d'ailleurs, parce que c'est...
Oui, c'est vrai.
Justement, c'est une équipe, quoi.
Ce que je trouve assez formidable, en plus, dans cette scène dont tu parles, c'est que J'adore le moment où il revoit la vidéo, où il remate ses vieux carnets de quand il passait son freestyle et qui dit « Ah merde, mais il y a des punchlines de Jimmy Punchline, qui est quand même une des chansons les plus célèbres d'Orelsan. » Et où tu dis, donc en fait, juste, il n'était pas à ce moment-là au bon moment, etc.
C'est exactement ce que
mais
je voulais dire.
Une question de talent. Il était déjà là, le talent, il était peut-être pas à l'aise, etc. Bon, il n'a pas kické de fou, mais c'est déjà des paroles que là, des stades entiers chantent quand il est sur scène, quoi.
Et c'est exactement en plus moi ce que je me suis dit en voyant cette scène, quoi. C'est que je me suis dit, c'est du Orelsan débutant, mais il y a déjà les fondations, c'est pas nul en fait. C'est juste que c'est parce que les jurés attendent, et ça montre aussi qu'il a quand même créé un style Orelsan. Maintenant, c'est normal, tu vois, mais à l'époque, un gars qui. Avec un rap un peu bizarre comme ça, qui parle de loose et tout, c'était genre, c'était chelou, quoi. Ça montre effectivement que, aussi bien tu peux être au bon endroit au bon moment, et ça peut être l'inverse aussi, quoi.
Et d'ailleurs, c'est un truc qui se pose souvent comme question tout au fil du documentaire. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est-à-dire que moi, j'avais peur de ça, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Au début, je me suis dit, le début va être intéressant parce que, il est jeune, puis c'est vrai qu'il y a ce truc très excitant de son frère le filme depuis qu'il est tout petit. Mais tu dis, une fois qu'il est connu, on la connaît, l'histoire. Mmh. Et en fait, ce que j'adore, c'est que pas tant que ça. Tu vois tous ses doutes, tu vois son procès, tu vois, après le premier album, qui marche pas comme il voudrait, du coup, il écrit des paroles pour d'autres artistes. Tu vois le succès du deuxième, mais quand même, il s'embrouille un peu avec son réalisateur. Et puis, quand il revient, il veut faire un truc. Tout ça, j'ai trouvé ça très... On parlait d'être transparent tout à l'heure. L'aspect transparent, ce qui va super bien à Orelsan, puisqu'en plus... Moi, je pense que c'est ce qui fait que je suis fan de lui depuis très longtemps. Et c'est ce que j'aime chez un artiste. C'est que je sens la sincérité dans tout ce qu'il fait. Je sens pas le calcul. Je sens quelqu'un de très sincère sur son vécu, sur ce qu'il traverse, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il a sur le cœur. Et ce qui fait du bien dans ce documentaire, c'est que ça confirme ça. Tu dis, c'est-à-dire que quand tu vois son appart dégueulasse avec des posters de Jean-Claude Van Damme au fond et tout, tu fais, oui, j'aurais pu dessiner l'appart d'Orelsan en écoutant ses paroles. Ça donnait ça, quoi. Même tout ce qu'il raconte avec les casseurs flotteurs, avec Gringe, tu te rends compte que oui, c'était vraiment leur life quand ils étaient plus jeunes. Quoi. Mais c'est vrai que Monte jamais ça à personne, il y a deux saisons. Il y a la première, donc effectivement, qui est celle qui a surpris tout le monde, parce que c'était d'un coup... j'ai l'impression qu'on avait jamais...
C'est vrai que moi, quand on est sorti, j'ai fait « Oh !»
Attends, mais c'était... Je peux pas dire malheureusement son nom, mais tu es un mème. Tu es un célèbre mème.
Non, j'ai fait « Oh !»
Ah pardon, autant pour moi.
Donc c'est un autre mème de ma propre création.
Un petit passage, je trouve que c'est marrant. Oh. Je parle de qui ? Je parle d'Orelsan. Oh là là. Saison 2. Il y a eu la saison 1, on parlait effectivement de toute sa carrière. C'est ce qu'a plus, je crois qu'ils ont eu des prix même pour ce documentaire. Et c'est vrai que quand la saison 2 a été annoncée, il y a eu un peu un truc de...
On a déjà tout vu, quoi.
Ouais, on a tout dit, quoi. Et vraiment, alors que je les connais, parce que je parlais d'Orel, mais j'ai aussi la chance de travailler avec Clément Cotentin, je me disais, là, vraiment, je vois pas ce qu'ils peuvent raconter. Et en même temps, j'étais surpris parce qu'ils font jamais des choses gratos, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont toujours... Voilà, c'est pas parce que le 1 a marché qu'ils allaient faire le 2. Je sais qu'ils pensent pas comme ça. Et en gros, la saison 2, c'est on va vous montrer les coulisses de l'album Civilisation qui venait de sortir. Et je trouve qu'en fait, les deux sont même totalement regardables l'un indépendamment de l'autre, puisque j'adore cette espèce d'inside de course contre la montre sur comment on fabrique un album.
Ouais, un album où même on peut extrapoler à n'importe quelle œuvre artistique ou même n'importe quelle... construction ou n'importe quoi. Si tant est qu'on soit un petit peu ouvert d'esprit, mais enfin, je vous en dis en juin. pour l'amour du ciel. tu peux vraiment. Mais c'est ça qui est génial avec tous les documentaires ou les. Même il y a ça dans certains podcasts qui mettent en lumière les étapes de la construction d'une œuvre. C'est que c'est pas vraiment un truc sur la musique, c'est un truc sur le processus créatif, quoi.
Ouais.
Et comment le processus créatif s'entremêle de problématiques humaines, du quotidien, des trucs très concrets, des trucs de on s'est mal compris et elle pensait que c'était la version temporaire du morceau, alors que pour nous c'était la version finale. Enfin, c'est des trucs cons, c'est des trucs qui nous arrivent nous, des genres pardon, il y a eu un quiproquo dans un vieux mail de
nos
merde.
Nos mails se sont croisés.
Sauf que là, c'est la conséquence, c'est pas de morceau feat Angèle.
Angèle feat Orelsan.
Donc
sous le nez.
Donc c'est cool, c'est C'est cool.
Non, mais on est dans cette désacralisation. Moi, c'est ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez certains artistes. Moi, j'ai jamais.
Et en même temps, calmos, vous n'êtes pas Orelsan. non, mais bien sûr, non, mais oui.
Moi, j'ai grandi dans une famille qui sacralisait beaucoup les artistes, tu vois. C'est-à-dire que
la société entière, malheureusement. Voilà. Bien malheureusement.
Et peut-être que, on le refait en les désacralisant trop, qu'on les resacralise d'une certaine manière, mais.
On les désacralise en consacrant deux saisons d'une série documentaire à eux. Ils sont bien désacralisés.
Non, mais sur le processus créatif, en tout cas. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la deuxième saison de Bon Jamais Sa Personne, c'est, il est, vraiment avec son jogging, un micro pourri, des enceintes qu'il a acheté au magasin du coin. Ouais. Il est à l'arrache.
Sa chaise immonde, que j'adore moi personnellement. La petite chaise avec la tablette intégrée là. Magnifique, mais magnifique. Une atrocité.
Rappelons qu'à ce moment-là, il a rempli déjà. Enfin, je veux dire, il a déjà. C'est l'homme de Basique.
C'est une énorme star.
Il est gigantesque. Non, mais oui, ce truc-là, c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup parce que vraiment j'y crois à 200%. Je trouve que ça permet de rendre, je pense qu'il est un peu là-dedans Orelsan, de rendre ton art plus sincère, parce que c'est vrai que si t'es que dans des hôtels de luxe oui. Tu vois que tu te mets au clair de lune avec une plume en guise de stylo et que tu dis je vais un petit peu parler de la civilisation française.
J'espère que la muse va prendre ma main pour la guider. Robespierre vient.
Eh bien, c'est du propre. Oh, ça vient tout seul.
Oh là là.
Non, voilà, il a besoin de se mettre dans une condition. Et ce que j'adore, c'est ce truc où des fois, il passe des jours et des jours, voire des semaines sur un son. Il fait une pause de 2 jours. Et écoute, il regarde son frère, il fait « C'est vraiment de la merde. C'est vraiment horrible. » Et même son entourage, quand Scret se tape, je crois que c'est sur À la France,
ouais.
Quand Scret se tape un espèce de fou rire, et même quand il essaie d'expliquer et qu'il te parle de refs de chansons françaises des années 70, vraiment, ça n'a aucun sens. Et en même temps, c'est ça que je trouve super, parce que je trouve que, avec Adrien, ça nous arrive d'écrire, des fois, quand on est dans des processus créatifs, je peux partir très, très, très loin sur une idée. Et effectivement, avoir ce truc du lendemain matin, genre, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, ou alors même, on a écrit sur des sketch-shows ensemble.
Oui, oui.
Moi, je sais que j'ai eu, mais toi, sans doute aussi, mais moi, je sais que j'ai eu un sketch que j'ai essayé de refourguer à chaque fois, et à chaque fois, on m'a dit, ça, c'est incompréhensible. Il n'y a que toi que ça fait rire. Et moi, j'y croyais dur comme fer, même encore.
Oui, ça veut dire. Aujourd'hui encore, tu y crois?
Ouais, un peu. Non, mais je sais que je peux le faire marcher plus ou moins.
Mais d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi. C'est qu'à la fin du docu, Orelsan a. Toutes ses chansons étaient disponibles. C'est-à-dire que même la chanson où Scred a dit à la France, mais enfin, ça décule, ne sort jamais ouais, ça, ouais. C'était quand même dispo sur les plateformes de streaming. Et ça, j'ai adoré.
Voilà. Après, ça aide d'être une énorme star pour, même tes morceaux que tout le monde trouve à chier. Tu fais, oui, moi, je vous le sors quand même. Parce que, voilà, je suis très, très connu. Tout le monde m'adore. Et quoi que je fasse, les gens, ils trouveront leur compte, de toute façon.
Et moi, j'aime beaucoup. En fait, mais ça va bien avec son perso aussi.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que vu qu'il a beaucoup d'humour et de second degré, c'est ça qui est agréable à entendre aussi.
Bien sûr.
Il y a
beaucoup de gens qui, par ego, auraient pas laissé des images de son pote en train de dire c'est nul à chier ton truc, en train de rire de sa propre création. Et c'est bien, enfin ça fait du bien en fait quoi de voir ça.
Mais c'est vrai que ça va aussi même avec son art en fait à Orel. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc de on teste, on s'en bat les couilles. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'il reste.
Et le premier à rire de lui, c'est qui? Attrape-moi le doigt. Oui. C'est lui-même.
Ah, mais bien sûr. Et je vais utiliser un terme de hip-hop. C'est ce qui fait qu'il reste authentique, selon moi. Et quand je dis authentique, je mets 5
H. Pas QE, bien sûr.
Non, il y a un immense K à la fin de ce mot.
Très bien.
Non, je pense que c'est ce qui fait qu'il reste authentique. C'est qu'il garde ce côté un peu balai, qui en même temps, je teste plein de trucs, et en même temps, j'ai un entourage proche qui, quand j'avais 17 ans, me disait « ça, c'est nul ». Et maintenant que j'en ai 40, me dit toujours « ça, c'est nul ».
C'est ça. Mais c'est ça qui est précieux, en fait, aussi. Encore une fois, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un documentaire, entre autres, parmi tous les thèmes qui traite, il y a l'importance de l'entourage, quoi. Parce que, comme tu viens de dire, en fait, moi, je l'ai vu même des gens proches de moi qui, au lieu de garder près d'eux les gens qui leur disent ça, c'est de la merde, ont tendance à justement les écarter parce que, alors, évidemment, tu vas avancer plus vite si tu écartes de ta vie tous les gens qui te disent « Ah, ça, c'est pas terrible et tout ». Mais en même temps, tu vas aller dans une direction qui sera pas forcément la bonne et quand tu vas t'en rendre compte, ça va être compliqué. Et je trouve que c'est aussi l'intelligence qu'il a eue de garder ces gens qui lui disent, mec, ça c'est à chier, quoi. Parce que c'est important d'avoir, et encore une fois, pas prendre en compte tous les avis. C'est-à-dire que tu vas pas aller lire tous les commentaires sur Internet et dire, oh, il a dit que c'est pas bien, je vais y réfléchir. Ouais. Non, avoir une sélection de gens dont tu estimes l'opinion, les garder près de toi et accepter quand ils te disent que c'est pas bien. Et ça, c'est une composante qui est très importante de la création aussi, quoi.
D'autant que c'est des gens qui, quand bien même, enfin, hors le fait qu'ils aient été là depuis le début, ils ont tous un rôle à part entière. C'est-à-dire que Scred, c'est un artiste qui compose, enfin, donc il a un goût, il a une sensibilité. C'est pas juste son pote d'enfance, quoi. C'est-à-dire que c'est un gars qui connaît, qui a écouté qui a découvert ce qu'il a fait, qui a dit, OK, je mise sur ce mec parce que je sens qu'il y a un truc.
Et qui est également un robot.
Qui est également d'une beauté surnaturelle. Il détesterait que je dise ça devant lui, mais je le trouve sublime. Et Clément.
A vu, non, j'avais. S'il écoute, Florent, on te trouve très beau.
Je te trouve très beau.
Bah oui, bien sûr.
Et Clément, d'accord, c'est son frère, mais parce que c'est son frère, c'est son premier fan. Et ouais. Je pense que ça, c'est un rôle ultra important de la personne qui dit, moi, j'écoute tes textes et ce que tu dis depuis le tout début. Donc. Tout ça, c'est des voilà, c'est pas juste des gens qui sont là, quoi. C'est des gens qui ont quelque chose à apporter à son art. Et c'est vrai que depuis le début de ce podcast, et d'ailleurs c'était un truc qu'on devra creuser dans l'épisode 2 quand on réfléchira à une fanfiction, c'est la place de l'entourage d'Orelsan dans le succès d'Orelsan.
Ouais, ouais,
donc comment si est-ce que si on s'intéresse à d'autres persos, est-ce que si c'est d'autres persos qui sont voilà. Non mais pourquoi pas.
Petit teaser.
Fanfiction. Et d'ailleurs, c'est un peu lié à l'entourage, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que il parle des gens qui sont là à des moments importants de sa création artistique et qui ressortent après et qui reviennent, etc. Il y a Gringe au moment des Casse-Sauveteurs, qui est quand même son pote de quand il était jeune, etc. Ah ouais. Et à un moment, il se dit, bah viens, on fait un projet que tous les deux, alors que c'est après. Son deuxième album, qui est quand même un succès monumental, c'est là où il gagne des prix partout, c'est là où il a changé de corps, il est devenu tout stock, etc.
Très beau aussi, d'ailleurs, si
sublime.
Je peux me permettre.
Non, mais.
Alors, peut-être pas aussi beau que Scred à tes yeux, mais.
Non, allez, écoute.
Sublime pour moi.
je ne saurais les classer. Mais justement, on parle de l'entourage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des. Parce qu'on parle des gens qui étaient là depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, des fois, sont là au début, repartent, reviennent. Je pense à Gringe, qui est là, effectivement, quand il est en coloc, etc. Et qui, alors il a toujours été un peu là hein, dans la carrière d'Orelsan Gringe, mais il vient vraiment le rechercher après son deuxième album, alors que son deuxième album, bah c'est l'album des
Zénith. Oui, alors qu'ils sont un peu perdus, enfin ils sont un peu éloignés quoi.
Ils se voient moins.
C'est toujours des potes, mais ils se voient
ça,
moins.
C'est ça. Il a fait un petit feat sur chacun des albums d'Orel, mais les Casse-Sauveteurs qui étaient quand même leur groupe du début et qui a d'ailleurs un style hein, qui était quand même un truc très grossier autour des mangas, des animés, de rien foutre dans un canap. C'était déjà ça quand ils étaient jeunes, et en fait, je trouve ça. Incroyable de revenir après Le Chant des Sirènes, encore une fois, qui a eu un énorme succès et tout, sur ce délire de pote en se disant c'est le moment. Ce qui en fait paraît logique après coup, parce que tu te dis, bah, t'as réussi ton truc, donc tu peux faire ce que tu veux. Et donc, le truc que tu fais, bah, c'est ça.
Mais beaucoup d'artistes
se diraient, bah non, là, les gens ont aimé ça, faut que je continue.
Faut que j'aille plus loin. Ce qui est un peu le truc, justement, c'est un truc dont on a déjà parlé un peu dans le Floodcast, ce truc qui est un peu dans l'air du temps et qui a un peu tendance à nous. D'agacer ce truc de toujours vouloir faire plus grand, plus gros, plus fort, etc. Alors que c'est une course en avant, enfin je veux dire une fuite en avant, pardon. Et ça me rappelle une interview que j'avais vue il y a longtemps et que j'avais adoré, mais j'étais encore ado. Et c'était une interview d'Alain Chabat et il venait de faire un grand film. Et évidemment, les questions qu'on lui posait c'était et alors maintenant, c'est quoi le prochain projet? Et sa réponse m'avait marqué à l'époque. Et je l'avais adoré sans vraiment trop comprendre pourquoi, enfin, sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Il avait dit, oh, bon, je sais pas, ce sera un film avec mes potes en vacances, avec mon caméscope, quoi. Ouais. Et j'avais trouvé ça trop bien parce qu'il y avait un côté, bah, oui, en fait, tout ça se nourrit, en fait, quoi. C'est ton film de merde avec tes potes qui va faire qui va insuffler de l'authenticité dans ta prochaine grande œuvre. Et il y a la même chose. Il y a la même chose là dans ça quoi. Il y a un côté j'ai fait un album où tu sens que Casse-Sauveteurs, même si c'est évidemment c'est chamé, mais il y a un côté plus viens on est débile quoi.
Ouais.
Et tu sens que c'est des trucs qui se nourrissent. Et je me rappelle quand Orelsan et Clément étaient venus dans le podcast, j'avais fait un jeu avec des chansons complètement débiles que j'avais faites Et après l'épisode, Aurel, il disait « Ah, mais c'est trop marrant, c'est trop bien de pouvoir juste faire ça. » Enfin, tu sentais que ce genre de truc un peu, comment dire, juste guidé par l'envie et l'envie de faire n'importe quoi, il kiffait ça, quoi. Tu sentais que, sincèrement, c'était un truc qu'il kiffait. Et je pense que c'est ça qui l'a poussé aussi, comme tu dis, à faire l'album des Casseurs Flotteurs, à essayer de ramener Gringe... À refaire ça, quoi. On retourne quand on était jeune et on se faisait plaisir, quoi.
On revient à cette histoire de sincérité et d'authenticité. Et d'ailleurs, qui marche aussi avec son réal. Il avait un réalisateur qu'il avait sur le Chant des Sirènes, qui a fait aussi d'ailleurs le succès, hein, faut le dire, d'Orelsan. Moi, je me souviens, c'était un peu le début des vidéos sur Internet et les clips d'Orelsan de cette période-là. Ouais. C'était les premiers un peu produits avec des trucs de geek. Il s'est quand même fait plagier un clip, hein, par des Américains, Aurel, à cette époque-là. J'ai oublié le nom de ce réal, je suis désolé, mais ils se perdent de vue au moment des Casseurs Flotteurs, parce que sur les Casseurs Flotteurs, Aurel et Gringe, justement, il veut garder, se dit non, là je prends un caméscope de merde, je fais le clip moi-même avec Gringe, parce que c'est le délire, c'est la DA en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire.
C'est ça.
Mais quand il revient avec Signation, il dit là, je vais reprendre ce gars-là parce que là, je veux donner de la puissance, je veux donner de l'image, et je trouve ça génial parce que c'est inattaquable en fait. C'est bah oui, là j'écoute que mon envie artistique en accord avec mon cœur et quand même mon cerveau, parce qu'il est quand même pas bête, il fait pas juste ça au gré du vent.
Oui.
Il sait comment ça fonctionne.
Il y a une nonchalance qui résulte d'une réflexion quand
c'est
même.
C'est ça,
quoi.
Bien sûr, évidemment. Et c'est toujours au profit et d'œuvre, et je pense que c'est pour ça qu'il est toujours là après tant d'années et qu'on en parle encore aujourd'hui dans un podcast. Mais voilà, là, je crois qu'on a bien parlé de ce qu'il fait Monte Jamais ça à personne. Ça va nous permettre de passer tout doucement à l'épisode 2, puisque vous le savez, Fanfiction, c'est un premier épisode où on parle de ce qu'est la série. L'épisode 2, on va brainstormer, on va réfléchir, ok, qu'est-ce que ce serait notre documentaire sur Orelsan. Alors c'est vrai que c'est un peu plus fou, parce que sur The Boys, c'était assez calé, c'est-à-dire que bah, y a une série, on invente un épisode.
Voilà, on a un lore et c'est surtout quelque chose qui est déjà une fiction. Là, on va faire une fiction sur quelque chose qui est
sur
vraiment purement réel.
C'est ça. Donc ça va être intéressant. Ça va être marrant, je pense. On joue un peu déjà avec le concept. Et ensuite l'épisode 3, et ben on enregistrera l'épisode et on verra le résultat final, peut-être
on verra, on l'entendra dans nos oreilles, dans Fanfiction, le podcast combiné et Prime Vidéo.
Mais tu sais que c'est pas pour rien en fait qu'on est venu nous chercher.
Mais c'est ça, des vrais pros du podcast.
C'est qu'il y a une espèce de voilà d'efficacité, c'est en nous quoi. Bon alors on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde, ciao.